Toronto. Experience one of the world's outstanding vocalists in jazz today, Yung-Soo Na, June 29th at the Toronto Center for the Arts. Hailed around the world as enchanting and a style-bending star, at once sensual and bluesy, her crystal voice, pure elegance and magic.
I said, hey, little bird, fly away home. Your house.
Yung-Soo Na, part of the Jazz at the George series at Toronto Center of the Arts. Presented by TO Live, June 29th. For tickets, visit Ticketmaster.ca.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Le 16 juin, fête de la musique avec nous. Ce sera super, super, super. Et pourquoi ne pas devenir membre? Fête de la musique, dimanche prochain sur CUT-FM.
Musique.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
France Inter. Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, Campus Saint-Georges, le département d'études langagières, Campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Eh oui, mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous nos amis qui nous écoutent à travers la planète Terre, bien sûr. Bonjour à Marceline qui est de retour et merci pour le message. On en parle. Et tous nos amis à Port-au-Prince, Haïti, ils sont vraiment très déçus et fatigués avec tout ce qui se passe en Haïti. Prenez votre mal en patience, on parlera de Haïti et politique bientôt. Nos amis à Paris, nos amis en Bretagne, à Rennes particulièrement, et bien sûr dans la ville de Québec, à Ottawa, à Gatineau, Montréal. Et oui, on en parle avec une personne spéciale vers midi aujourd'hui, à ne pas rater. Vous êtes nombreux à réagir au sujet d'aujourd'hui. Triste événement, malheureusement, dans la communauté haïtienne surtout. Un bonjour très spécial à Percy Iptong, notre ami de toujours et collaborateur. Il Maurice, producteur, il est avec une bande de musiciens rodrigués en tournée en Allemagne, en France. Et c'est un succès incroyable, peut-être bientôt à Toronto. Qui sait? Un bonjour très spécial à nos amis de l'océan Indien et particulièrement à l'île de la Réunion où se déroule le festival Sakifo, un festival de musique incontournable à l'île de la Réunion chaque année. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée Sakifo Music Festival qui propose aux amateurs de musique tout ce qu'ils attendent, c'est-à-dire de la musique diversifiée venue de tous les horizons, pop, rock, électro, chansons françaises, blues, reggae, funk, musique d'Afrique et de l'océan Indien. Où sont les musiques canadiennes? Sakifo, en créole réunionnais, ce qui veut dire ce qu'il faut. Et puis, très belle carte postale, regardez ça, mes chers amis de Sweden, from notre ami de toujours, qui nous écoute sur Internet, qui apprend le français avec nous. Wiltrud, thank you so much for this beautiful card. Hope you had a great time in Sweden. Elle sera des nôtres, ici même, à Toronto, au mois d'août ou de septembre, je pense. Welcome on board. Dimanche 9 juin. Nos partenaires pour cette émission extraordinaire aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de Cassav, 40 ans, tournée qui fait un tabac toujours à travers le monde, magazine Priorité Santé, partenaire de RFI, Educ Nation Consulting Inc., Reflet Salvéo, Noir Psy, cabinet de conseil d'intervention santé mentale, résilience. Ciné Franco, merci, j'espère que tout s'est bien passé pour la projection du film sur hommage à Agnès Varda hier. Et puis, envoyez-nous un petit message, Madame Marceline, j'espère que vous vous reposez de votre tournée extraordinaire en Europe. Et bien sûr, un grand merci à l'ouvrage collectif Poèmes de la Résistance aux éditions Prise de Parole, France 24, RFI, TV5 Monde, la galerie Thomson Landry et aussi le Musée Royal de l'Ontario avec le French Fridays, la soirée. Et oui, French Fever, chaque vendredi, si cela vous intéresse, le 14, il se passe beaucoup de choses. Je sais que nos amis vont chanter là, à l'Alliance française de Toronto vendredi soir. Et peut-être ils seront dans notre, sur notre liste d'invités pour la fête de la musique le 16. On en parle. Au menu aujourd'hui, notre invité a un parcours très très atypique. Vers 11h30, il sera des nôtres, madame, monsieur. Pourquoi a-t-il adopté le Canada? Comment le Canada est devenu sa maison après 40 ans de tentatives? Il est né à Tours, en France, au milieu des châteaux de la Loire. Et puis il est passé au Brésil, à l'île Maurice, île paradisiaque. Qu'est-ce qui a bien pu pousser notre invité à déposer ses valises à Toronto? Une aventure pleine de rebondissements. David Diaz, un peu consonance portugaise, n'est-ce pas? Il est jeune français, développeur, web designer, il a appris ça dès son tendre enfance. Vous allez voir, c'est un génie ce monsieur. Et il est conférencier, il vit à Toronto, il sera des nôtres vers 11h35-40. La polémique ne s'éteint pas suite aux propos de la chroniqueuse Christine Angot dans l'émission « On n'est pas couché ». Et oui, qui enfle à chaque jour. Et une belle leçon d'ailleurs pour les médias français et peut-être les médias canadiens. Claudie Sillard, notre ami de toujours, homme de la radio et de télévision, producteur de Couleurs Tropicales que vous écoutez régulièrement sur notre antenne. Il travaille à RFI bien sûr. Il nous livre sa réplique. à ne pas rater. Littérature, toutes nos félicitations à Pierrot Ross Tremblay, récipiendaire ex aequo du prix Voix Autochtone. Ce monsieur fait des éloges incroyables, surtout pour la communauté autochtone, bravo. Meilleure œuvre d'art littéraire publiée en français, Denise Truax, directrice de l'édition et co-directrice générale de notre partenaire édition Prise de Parole, qui reçoit un doctorat honorifique en lettres de l'Université Laurentienne. Bravo à tous ces partenaires. Et puis de 12h à 13h, à ne pas rater, une émission spéciale, la santé mentale, on en parle. Ensemble, faisons reculer le stigma et les tabous. La communauté haïtienne est en détresse. Deux suicides ces derniers jours qui ont bouleversé l'opinion publique de la communauté. Et suffisent à tirer la sonnette d'alarme. Et une émission spéciale réalisée en partenariat avec le magazine Priorité Santé, Caroline Paré, bonjour, à RFI, Educ Nation Consulting Inc. et son fondateur, Monsieur Bertrand, qui sera là vers 12h50 pour faire la synthèse de l'entretien avec tous nos invités. Et Reflet Salvéo, Noir Psy, c'est un cabinet de conseil et d'intervention santé mentale, résilience. Vous allez découvrir une jeune femme qui fait un travail extraordinaire ici en santé mentale. Je vous laisse languir. Une façon aussi pour nous de rendre hommage aux personnes affectées par ces drames. La santé mentale, on en parle, à ne pas rater de 12h à 13h. Pour nous joindre ou émettre vos commentaires en direct tout au long de l'émission, popourri@cut.fm. Popourri Show, 33 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci, merci chers amis. Vous êtes nombreux hein, à vous déplacer. C'est beau, c'est beau. Allez, les buzz, le tour du monde avec nos médias partenaires. Un horaire fort chargé au cours de sa première visite au Canada, la grande patronne, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Mushiki Wabo, sera au Québec et à Ottawa pour une visite officielle du 9, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 12 juin. Elle participera lundi à l'ouverture officielle de la conférence de Montréal au cours de laquelle elle prononcera le discours. Un discours, et oui, elle s'entretiendra ensuite avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et prononcera un discours à l'occasion d'une table ronde sur les enjeux de la transformation numérique de la francophonie, la contribution du Québec. Madame Mushiki Wabo rencontrera aussi le Premier ministre Trudeau, Premier ministre canadien, si vous ne le savez pas. Selon le cabinet de Monsieur Trudeau, tous deux discuteront alors des progrès réalisés depuis le sommet d'Evran. Pour faire avancer les priorités communes, notamment l'égalité des sexes, le respect des droits de la personne, ainsi que la protection et la promotion de la langue française et des cultures francophones. Ils aborderont également les objectifs et priorités de l'organisation, ainsi que la modernisation administrative que l'organisation entreprend. À noter, la francophonie regroupe 88 États et gouvernements ayant la langue française en commun. Le Canada compte 4 sièges au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, en plus de la représentation fédérale, le Nouveau-Brunswick et le Québec en sont membres à part entière et la province de l'Ontario y a un statut d'observateur. Dossier immigration, la ville de Montréal ouvre ses services aux immigrants sans statut. Une première, cette nouvelle politique d'accès aux services municipaux sans peur, lancée vendredi, clarifie la position de Montréal quant à l'accueil des immigrants au statut irrégulier. Sera en vigueur dès cet automne. La mairesse de Montréal sera bientôt à nos micros. J'ai mal à mon identité québécoise. Elle s'appelle Sophia Alami, d'origine marocaine. Elle est professionnelle de la santé, mère, fille, citoyenne. Elle vit à Montréal. Un article du journal Le Devoir a soulevé tout un tollé sur les réseaux sociaux. De plus en plus, notre émission reçoit des dizaines de témoignages d'immigrants hautement éduqués, hautement qualifiés, qui n'ont qu'une idée en tête, quitter le Québec au plus sacrant. Et toujours dans le dossier de l'immigration, la France est le pays européen qui a le plus recours à l'enfermement des migrants. Les centres de rétention ont été utilisés à plein régime l'an dernier avec une détérioration des droits des étrangers enfermés, dénoncent 6 associations dans un rapport qui fait grand bruit. La conclusion qu'il y a eu génocide au Canada contre les autochtones, plus particulièrement les femmes et les filles, alerte l'Organisation des États américains. Le secrétaire général de l'organisation, Luis Almagro, a fait parvenir une lettre à la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, pour lui communiquer sa profonde consternation. En Algérie, rejet de la feuille de route de Ben Salah, les Algériens sont sortis en masse vendredi pour la 16e fois de suite à travers plusieurs villes du pays pour réclamer le départ du système. À Alger, la mobilisation reste intacte. Du journal Jeune Afrique Intelligent, Côte d'Ivoire, nouvelle violence après la mort d'un chef local dans le centre du pays. Tunisie, OA, un webzine masculin et en français pour rétablir l'équilibre dans les sujets mode et société. Donald Trump interdit les drapeaux LGBTQ sur les ambassades pour le mois des fiertés. Une décision, ce n'est pas la première d'ailleurs, qui est en contradiction avec ses récentes déclarations en faveur des droits LGBTQ. Le mois LGBTQ a été lancé cette semaine à Toronto par le maire de Toronto. Cependant, pour une seconde fois au cours des dernières semaines, des prédicateurs fondamentalistes chrétiens, aussi appelés preachers, ont confronté directement la communauté LGBTQ au cœur du village gay de Toronto, Wellesley Church. La police a arrêté l'un des membres du groupe religieux alors qu'il propageait des messages homophobes à l'aide d'un porte-voix. Selon nos sources, plusieurs fondamentalistes chrétiens se préparent pour semer la pagaille à la prochaine marche des fiertés, le grand défilé annuel Pride Toronto le dimanche 23 juin. Et aux États-Unis, plusieurs groupes d'hommes blancs vont lancer une première Straight Pride March. L'un des résidents du quartier gay de Toronto affirme que ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive dans le village, puisque nous avons maintenant des groupes réactionnaires légitimés par des chefs de gouvernement ici et aux États-Unis. Alors que nous célébrons le mois des fiertés LGBTQ et que nous reconnaissons les extraordinaires contributions des personnes LGBTQ au Canada, mais aussi dans le monde, nous marquons aussi notre solidarité envers les personnes LGBTQ qui vivent dans les pays qui punissent, emprisonnent ou même exécutent les individus sur la base de leur orientation sexuelle. Dimanche 23 juin, Popourri Show vous donne rendez-vous pour une émission spéciale, témoignage sur les avancées, les victimes d'actes homophobes, cocktails, brunch, les meilleures musiques des Gay Pride à Toronto et dans le monde. Dimanche 23 juin, un rendez-vous à ne pas manquer. Et un 7 juin 2018, les progressistes conservateurs de Doug Ford prenaient le pouvoir en Ontario, amenant avec lui le démantèlement d'une série de programmes environnementaux, sociaux et de nombreuses mesures d'austérité affectant le monde de l'éducation, les services sociaux et tant d'autres. Pour les franco-ontariens, l'arrivée de M. Ford a aussi sonné le glas du commissariat aux services en français et la mise en veilleuse de l'Université de l'Ontario français à Toronto. Et selon les dernières news, tenez-vous bien, de North 99, c'est un site web qui regroupe, c'est un mouvement citoyen de plus de 100 000 activistes en Ontario. Doug Ford a, au nom des contribuables, grassement rémunéré ses petits copains au moins 60 millions de dollars par semaine, eh oui, versés à de grosses corporations, tandis qu'il est en train de couper dans les programmes essentiels et services sociaux. Un blog qui vous offre des informations très bien détaillées, madame, monsieur, avec les noms des personnes en question et le montant qu'ils touchent par semaine ou par mois. Allez-y. News North 99, voilà. Alors, donc, www.north99.org, vous y découvrirez des noms de toutes les personnes avec des salaires mirobolants à vous faire tomber debout. Et oui, la polémique ne tombe pas, et malheureusement, dans les médias français, la colère gronde toujours suite aux propos blessants de la chroniqueuse Christine Angot dans l'émission « On n'est pas couché ». C'était le samedi 1er juin, comparant l'esclavage et la Shoah, et cela a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux en France, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, enfin dans les Antilles. Et je vous rappelle que l'émission « On n'est pas couché » est retransmise sur TV5 Monde, captée à Toronto chaque dimanche soir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit au juste ? Le but, avec les Juifs, pendant la guerre, cela a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit une différence fondamentale, dit-elle, avec l'esclavage des Noirs, où c'est exactement le contraire. Et elle continue, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, c'est-à-dire les Noirs, les esclaves, qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir les vendre et qu'ils soient commercialisables. Ainsi, France Télévisions, chaîne publique, accroît le temps de parole de la haine en accordant un temps d'antenne aux idéologues de ses officines. Avant, c'était Éric Zemmour qui distillait la haine. Maintenant, c'est Madame Christine Angot qui légitime et fait l'apologie d'un crime contre l'humanité que fut la séquestration, la déportation et le travail forcé des Africains, des Africaines. Les descendants directs ou indirects de ce crime contre l'humanité ne veulent plus de fausses excuses. Vous entendez, Madame Angot ? Ils demandent réparation. Cela commence par la cessation de l'émission « On n'est pas couché », dont le producteur-animateur, M. Ruquier, est un spécialiste pour inviter ses idéologues dans son émission. La redevance de télévision ne doit pas servir à financer le révisionniste et le négationniste. Plusieurs groupes portent plainte au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Écoutez, madame, monsieur, la riposte de notre ami et partenaire Claudie Sillard, qui n'a pas la langue dans sa poche. Eh oui, il est animateur de radio, de télévision française et producteur de Couleurs Tropicales sur RFI depuis plusieurs années, très populaire dans les Antilles mais aussi en Afrique. Et il est aussi le vice-président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer.
Sur France 2, dans l'émission « On n'est pas couché » de Laurent Ruquier, l'écrivaine et journaliste Christine Angot a tenté maladroitement de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Elle a rappelé le calvaire, ce qui a été perpétré contre le peuple juif, ce génocide. Et à juste titre, elle a dit qu'il y avait eu une tentative d'extermination. Là où elle s'est fourvoyée, c'est en osant faire une comparaison avec les peuples noirs déportés pour être esclaves. Elle nous a dit, avec l'approbation de François-Olivier Gisbert qui était à ses côtés, que les maîtres traitaient bien leurs esclaves. Ils les nourrissaient bien parce qu'ils avaient besoin d'eux pour bien travailler. Et que donc, elle aurait presque pu nous dire que les maîtres aimaient leurs esclaves. Il faut juste lui rappeler qu'il y a eu un certain code noir promulgué par Colbert. Et que ce code noir était censé améliorer le sort des esclaves. S'il y a eu ce code noir, ça veut bien dire que les esclaves étaient maltraités. Or, rassurons-nous, ce code noir n'était qu'un enfumage, puisque il n'a fait que chosifier, donc déshumaniser encore un petit peu plus les esclaves. Et puis, les maîtres ont continué à fouetter leurs esclaves, ont continué à les punir lorsqu'ils osaient s'évader en leur coupant le pied, en leur coupant la jambe, en leur coupant le sexe, en leur coupant les oreilles, le nez, la langue. Ces maîtres qui n'hésitaient pas à violer des jeunes filles à peine pubères pour se faire plaisir, ou qui offraient certaines de ces jeunes filles à leurs amis colons venus leur rendre visite. Christine Angot dit qu'il n'y a pas eu génocide. Alors elle ne connaît pas cette histoire. On estime à 10% la cargaison, et j'emploie le terme à dessein, 10% des esclaves arrivés dans les cales de bateaux mouraient en mer lors de cette grande et terrible traversée. Ils étaient jetés aux requins. L'espérance de vie d'un esclave sur une plantation n'excédait pas 7 ans. Le sort des esclaves de la maison n'était guère plus enviable. D'ailleurs, si les grandes révoltes d'esclaves ont toujours été menées, que ce soit aux Amériques ou dans les Caraïbes, par des esclaves dits de la maison, c'est bien parce qu'eux aussi subissaient les pires sévices. Ils étaient humiliés et ils savaient qui était le maître. Ils vivaient à côté de lui, souvent obligés d'être dans la couche du maître. Lorsque Christine Angot tente de minimiser ce qui a été perpétré contre une frange de la population humaine, de l'humanité, c'est qu'elle estime qu'il y a là aussi hiérarchie entre les peuples. La France s'est dotée d'une loi qui reconnaît que l'esclavage et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité. Toute personne qui tente de nier cela tombe sous le coup de la loi, car c'est du négationnisme. Christine Angot, François-Olivier Gisbert et tous ceux qui ont acquiescé tombent sous le coup de cette loi. L'esclavage est un passé très présent. Il s'est répété du temps de la colonisation, où on a imposé aux Africains les travaux forcés. Relisez André Gide, le Congo océan, et vous comprendrez que chaque traverse de cette voie ferrée a coûté une vie humaine, une vie africaine. C'est un passé très présent, car les jeunes que vous voyez partir aujourd'hui, qui se retrouvent esclaves en Afrique du Nord, que l'on humilie, ils partent parce qu'encore une fois, avant, on a déporté leurs ancêtres, puis on est venu chercher leurs matières premières, puis on est venu faire en sorte qu'aucun développement réel soit possible, et ces jeunes-là partent. Ils sont tués dans le désert, esclavagés, tués en mer, humiliés lorsqu'ils arrivent en Europe. Oui, l'esclavage est un passé très présent. Et nous, descendants d'esclaves, qui appartenons à une seule humanité, il n'y a pas deux humanités, lorsque mes amis arméniens me parlent du crime qui a été perpétré contre leurs ancêtres, à aucun moment je ne leur dis « mais ce qui a été commis contre les miens est bien plus grave ». Non, je les écoute et je m'associe à leur douleur. Regardez l'état de la France aujourd'hui. Ce racisme, ces discriminations répétées, cette violence permanente, sociale, physique. Vous êtes, vous, qui osez parler dans les médias, les artisans de cela. Il y a quelques semaines, vous avez pleuré lorsque Notre-Dame a été détruite par un incendie accidentel. Vous avez pleuré. Vous savez à quoi j'ai pensé ? À la flèche de Notre-Dame, qui a été construite au moment où la France continuait à jouir, à bénéficier des subsides de l'esclavage, du sang, de la sueur, des douleurs d'êtres humains. Il n'y a pas deux humanités, il n'y a qu'une humanité. Et ma génération fera tout pour que, quelle que soit la couleur de la peau de nos enfants, mais qu'ils n'héritent pas du monde que vous êtes en train de construire. Vous êtes les héritiers de ces hommes qui pensaient, et c'est l'un de nos grands écrivains afro qui l'a traduit en une phrase. Il disait, pour les Occidentaux, « Le noir n'est pas un homme, c'est un homme noir. » Mais nous, aujourd'hui, nous ne courberons plus jamais les chines. Que ce soit en Afrique, dans les Amériques, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans les océans Indiens, dans l'océan Indien, pardon, partout où les Noirs sont, ils subissent la relégation. Mais partout où ils sont aujourd'hui, ils se dressent, ils se lèvent. Et ils ne se reconnaissent pas dans une humanité séparée, mais dans une seule humanité. Lorsque la France a aboli l'esclavage, après le décret du 27 avril 1848, il a fallu qu'elle donne des noms à ces esclaves qui n'en avaient pas. Ils avaient des sobriquets. Certains de ces esclaves étaient tatoués, comme les juifs que l'on envoyait dans les camps de concentration. Sur France 2. Madame Angot.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
À ne pas rater notre émission spéciale Marche des Fiertés Pride Toronto. 33e édition en direct le 23 juin de 11h à 13h sur CIUT 89,5 FM. Au menu des cadeaux, des invités engagés, des témoignages percutants, des drag queens et des DJ qui animent les meilleurs défilés en Europe, aux États-Unis et au Canada.
Sensations, and we've got the power to go to the past.
Welcome to the jungle.
Et oui, saviez-vous que même en 2019, partout dans le monde, y compris au Canada, des personnes sont prises pour cible en raison de leur orientation sexuelle? Saviez-vous que dans 72 pays, l'homosexualité est encore un crime? Qui sont ces gens qui mettent leur propre sécurité en danger pour dénoncer les atteintes aux droits des personnes transgenres? Que dit-on à ceux et celles qui se sentent ni hommes ni femmes? Qui a osé dire que l'homosexualité a une longue histoire en Afrique? Quels sont les droits et services de soutien pour les réfugiés homosexuels au Canada? Pourquoi Doug Ford boude-t-il le défilé Pride de Toronto? Même si tu n'es pas si rose, Popourri Show vous réserve un voyage incontournable. Découvrez l'exubérance généreuse et joyeuse de nos invités de Pride Toronto et des Gay Pride dans le monde. Dimanche 23 juin de 11h à 13h, un rendez-vous à ne pas manquer.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena love,
Adrabenda la cosa, adrabenda la cosa, ding-e-dong.
Non,
ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
Cette semaine dans Fréquence Terre, Arnaud Jour.
Du fait des nombreuses perturbations climatiques dues à l'activité des pays industrialisés, de nombreuses petites îles s'inquiètent de leur avenir.
Fréquence Terre, le magazine de l'environnement, présenté par Arnaud Jour.
Et oui, on descend, mesdames et messieurs, dans l'océan Indien avant d'accueillir notre invité, premier invité, deuxième invité hein, du jour. Océan Indien à l'île Maurice, c'est le festival Ça qu'il faut à l'île de la Réunion. Allez, salut, ciao. Ça, c'est le SEGA de l'île Maurice, madame, monsieur. Et je vous rappelle rapidement, à l'occasion du 35e anniversaire de la fondation de la Société d'Histoire de Toronto, il y a plein de choses qui se passent. Et entre autres, aujourd'hui, cela vous intéresse après l'émission, hein, après l'émission, à 13h30, on vous donne rendez-vous pour aller visiter les origines de Toronto le long de la rivière Humber, à partir de 13h30 aujourd'hui. Et c'est le métro Jane, hein, et on vous attend au pilier d'entrée du Baby Point State. Et de là, vous prendrez l'autobus Jane 35 ou Warren Park 35 jusqu'à Baby Point Road et Annette Street. Et vous arrivez au métro Old Mill de Lambton House. Et il y aura bien sûr des guides. Lisette Mallette, je pense qu'elle est toujours la présidente hein, de la Société d'Histoire de Toronto. Et Annette Street, c'est son nom, Annette Street. Vos guides, non, c'est Isabelle Montagnier. Qu'est-ce que je raconte? Lisette Manier et Isabelle Montagnier sont vos guides, madame, monsieur. Et cette visite dure environ 2 heures aujourd'hui. Donc, pique-nique à Lambton House aujourd'hui. Allez sur le site de la Société d'Histoire pour tout savoir. Il y a un grand concert que je vous annonce avec fierté. Oka Van Gogh African Orchestra, et là vous avez plusieurs musiciens africains qui vivent à Toronto, en Ontario, mais qui ne sont toujours pas connus malheureusement, et l'Alliance française les accueille à bras ouverts le vendredi 14 juin prochain à partir de 20h. Allez-y faire un tour, et nous remercions Batuki Music Society, bien sûr avec notre ami Nadine McNulty qui anime une émission sur les musiques africaines chaque dimanche à partir de 15h. Et donc allez faire un tour Africa Without Borders, et peut-être nous recevrons quelques musiciens. Ils sont de partout, hein, de Ghana, de Madagascar, ils parlent français, hein, ils parlent français. Donc Oka Van Gogh African Orchestra, allez voir, c'est très intéressant, merveilleux, à l'Alliance française de Toronto, vendredi prochain à partir de 20h. Poème de la résistance, beaucoup de réactions. Et bien sûr, nous allons tout au long de l'année lire quelques extraits de ces poèmes, tenir tête à une autorité, à une limitation de sa liberté, un sentiment qui demeure vivace en dépit de ce qu'il menace, qui désire et qui résiste et qui a de la cohésion, résistance électrique, ce qui résiste au temps,
aux causes de la dissolution. Reprise, c'est prise de parole, la maison d'édition prise de parole qui a publié cet collectif de poèmes sur la résistance en Ontario. Et puis je vous rappelle que le 16 juin prochain, nous fêtons en grande pompe la fête de la musique. Je vous invite à découvrir de nouvelles révélations francophones, de concerts, vedettes d'hier et d'aujourd'hui sur les cinq continents en partenariat avec TV5 Monde, partenaire officiel de la fête de la musique, Festival Compazouk Ontario, l'artiste Richie J, prix de la meilleure voix masculine avec son titre Kilimanjaro en 2018. À Montréal sera des nôtres et RFI France 24 à ne pas rater dimanche prochain de 11h à 13h. Cela vous tente de parrainer l'émission ou participer, présenter un peu vos activités, vos projets dans le cadre de la fête de la musique ou culturelle, n'importe quelle activité culturelle. Vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Et oui, en 2017, ils étaient plus de 20 000 Français à avoir profité du programme Vacances-Travail pour s'établir au Canada. Et selon nos observations, les jeunes Français de 18 à 35 ans se ruent vers le Québec. Mais depuis quelque temps, la tendance est renversée. Pourquoi avez-vous choisi Toronto, l'Ontario et pas le Québec? C'est ce qu'on va découvrir, madame, monsieur, dans un instant. En 2014, ils posent ses pieds au Canada pour la première fois. Depuis, il a tout tenté, plusieurs reprises, de revenir dans cette belle ville de Toronto. Et ben, en 2018, après deux tentatives de PVT, programme visite-travail, vacances-travail, un déménagement de 2 ans à l'île Maurice. Pourquoi l'île Maurice? Il pose enfin ses pieds au Canada avec sa femme et son permis de travail en poche. Ce n'est que le début de l'aventure. Mais qui est cet invité, ce jeune Français au parcours atypique? Et oui, il s'appelle David Diaz, madame, monsieur, et le Canada lui fait rêver. C'est pour cette raison qu'il est ici. Il fait plein de choses, entre autres, c'est un expert en web design, n'est-ce pas? Bonjour, David.
Bonjour.
Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi le Canada? Pourquoi ne pas rester au Brésil? Vous avez fait quand même une tournée, là, à l'île Maurice. Pourquoi l'île... Hein? Quand on a connu l'île Maurice, quand on a découvert, on a voyagé, on a vogué, n'est-ce pas, à l'île Maurice? Pourquoi venir au Canada, ce pays qui a tant de mois de fraîcheur, d'hiver, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est un peu la question que tout le monde m'a posée quand je suis arrivé à Toronto il y a à peu près un an.
Alors, cette aventure, vous l'avez dans la peau, dans le sang, comment expliquer? D'ailleurs, ce nom, Diaz, c'est un peu portugais. Alors, ça, hein?
Diaz, c'est tout à fait portugais, effectivement. Ouais. Mes parents sont portugais. Et ont eux-mêmes immigré en France dans les années.
Alors les Portugais, ce sont des grands explorateurs. Ils sont même allés à l'île Maurice, dans l'océan Indien, pour découvrir l'île Maurice. Peut-être les gens ne savaient pas ça. Hein.
C'était les premiers d'ailleurs. Exactement. C'était les premiers à découvrir l'île Maurice.
Oui. Alors vous avez voulu, à votre tour, suivre les pas de vos ancêtres.
si on peut dire, ce n'était absolument pas prévu à la base, mais si l'on veut, oui. Étant donné que je suis un peu le seul quand même de ma famille à avoir eu de multiples expatriations jusqu'à maintenant.
Et en 2014, vous êtes venu au Canada, ça c'était dans le cadre d'un permis?
Juste pour visiter, pour découvrir. C'était un pays qui m'avait toujours un petit peu intéressé. Et j'ai décidé du coup d'y passer quelques jours. J'ai passé quelques jours à Toronto, j'ai passé quelques jours à Montréal. De manière surprenante peut-être pour certains, Toronto m'a énormément plu et d'une certaine manière un petit peu plus même que Montréal.
Pourquoi?
C'est difficile à dire. L'ambiance, le fait d'avoir aussi de sentir ces nombreuses nationalités que l'on a ici à Toronto. c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu et j'aurais tendance à dire à Montréal, bon bah on parle français. Je saurais pas vraiment expliquer, mais je sais que j'avais vraiment ressenti quelque chose d'assez fort pour Toronto et du coup lorsque j'ai quitté le Canada, ensuite j'ai été passer quelques jours à New York. Cette envie de vouloir revenir et de vouloir tenter quelque chose ici est restée.
Alors, il y a, comme je l'ai dit, des milliers de PVTistes, hein, ces jeunes Français de 18 à 35 ans qui quittent leur pays d'origine pour venir s'installer au Canada avec ce programme Vacances-Travail, qui est un très gros succès d'ailleurs. Hein. Et vous avez voulu, vous aussi, tenter l'expérience avec ce programme?
Et oui, j'ai commencé à faire quand même pas mal de recherches suite à lorsque je suis reparti du Canada. Et c'est vrai que le PVT revenait très souvent. J'ai parcouru un petit peu certains sites, immigré.com, pvtiste.net, etc., où j'ai pu trouver des conseils, des astuces, des témoignages de nombreuses personnes. Et donc, ça me semblait une chose assez simple à tenter.
Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que ça n'a pas été si facile, hein, ça vous a pris des années.
Alors, ça n'a pas été facile puisque, alors lorsque j'ai commencé, c'était en 2015, on était encore sous le format où on devait se connecter à une certaine heure et espérer éventuellement, parce que on parle de plusieurs milliers de personnes qui se connectaient à des mêmes horaires pour essayer de remplir un formulaire et être accepté. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, j'étais, à cause de mon travail, à l'île Maurice, donc vous imaginez la connexion qui n'était pas forcément la même qu'en Europe. Et je me rappelle très bien que ce n'est pas réussi. J'ai réussi à me connecter à ce site au bout de 5 minutes. J'ai su par la suite qu'au bout d'une minute 30, on avait atteint les quotas.
Ah oui.
Donc, voilà, il y avait cette difficulté en 2015. J'ai retenté en 2016 où on avait changé le format où c'était des tirages au sort. Mais là encore, il faut avoir de la chance.
Et finalement, comment ça s'est fait? Alors, vous étiez sans doute très déçu. En colère, peut-être?
En colère, je dirais non, parce que ça me semble assez aléatoire. Mais c'est vrai que... On se sent un petit peu perdu aussi, étant donné qu'on se dit voilà, on a cette prévision, on a cette espérance. Même en 2016 pour le tirage au sort, j'avais quand même l'espoir que sur une année, j'allais pouvoir avoir la chance d'être tiré au sort. Et ça ne s'est malheureusement pas fait.
Combien de temps ça vous a pris?
Au total, quasiment 4 ans.
Quatre ans
entre ma première visite, on va dire, au Canada, les recherches, les tentatives de PVT, etc. Ça a pris au total 4 ans.
Donc, si on est, par exemple, en France, est-ce que c'est plus facile de se connecter avec ce programme, ce service en ligne?
Alors maintenant, il n'y a pas vraiment de difficulté où ce n'est plus lié à un horaire ou à une connexion, etc. Il suffit simplement, je dirais, de remplir le formulaire sur le site du gouvernement canadien d'immigration et de remplir, on va dire, tout ce qui est nécessaire pour créer son profil. Et ensuite, je dirais, attendre les différentes phases, puisque sur une année, alors je ne sais plus exactement, mais il y a différentes phases de tirage au sort. Je suivais de très très près le Twitter et tous les sites qui donnaient les informations concernant cela. Et il faut simplement être patient. Après, il faut aussi se préparer, étant donné que si vous êtes accepté, vous avez un délai, il me semble, de 15 jours où vous devez présenter tous les documents, etc. Donc, il faut quand même une stratégie, une préparation nécessaire pour que vous puissiez être prêt dans le cas où vous recevez où vous êtes accepté et que vous recevez une invitation.
Et pour vous, dans votre tête, vous pensez que ça allait être facile parce qu'en étant développeur web depuis plusieurs années, vous saviez qu'il y avait une demande chez certains employeurs canadiens de vous offrir un emploi potentiel. Mais comment faire pour justement vous faire connaître auprès de ces employeurs canadiens? Est-ce qu'il y a un secret que vous pourriez partager à des auditeurs ou encore des Français qui nous écoutent en France et qui rêvent un jour de venir à Toronto ou ailleurs au Canada?
Alors, quelque chose que j'ai développé, on va dire, depuis ces quatre années, c'est que pour moi, il était normal ou il était logique que venant ou souhaitant venir au Canada, je me confrontais également à d'autres personnes qui avaient exactement le même souhait et qui pouvaient travailler dans le même domaine. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, ce que j'ai recherché dans mes activités, dans ce que je faisais, c'est de trouver le moyen, de par mon expérience, de pouvoir me différencier de toutes ces autres personnes.
Ah oui, c'est bien.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans l'esprit, notamment des jeunes, parce que je communique avec énormément de jeunes qui ont aussi ce souhait de venir au Canada. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est logique et et que les gens se disent en général. Mmh. Mais je pense que je le souligne très régulièrement. Il est très important de venir avec une stratégie en se disant voilà, on n'est pas tout seul. Même si j'étais dans un domaine effectivement comme vous le disiez où il y a une recherche qui est énorme, on n'est pas tout seul. Il faut faire des choses, il faut se rendre visible, surtout aujourd'hui avec Internet, il y a quand même beaucoup de facilité. Il faut faire des choses qui vont permettre à un futur employeur de se dire, bah tiens, cette personne-là a peut-être quelque chose qu'elle peut m'apporter par rapport éventuellement même à des personnes qui sont ici et qui ne sont pas suffisamment ou qui ne cherchent pas à être visibles.
David Diaz, madame, monsieur, jeune français, fonceur, et on voit qu'il a quand même des secrets, plusieurs astuces, plusieurs tours dans sa poche, notamment grâce à un de ses projets informatiques open source, dont la fameuse front-end checklist. Vous avez pu vous faire connaître grâce à 33 000 étoiles, l'équivalent des j'aime, likes, sur Facebook. Vous avez eu la chance d'avoir une très grande visibilité, pour ne pas dire visibilité internationale, qui a sans doute joué en votre faveur.
Définitivement. Mmh. Définitivement, puisque lorsque j'ai été amené à passer des entretiens ou même en prenant contact avec des entreprises, ne serait-ce que de leur dire voilà, vous avez entendu parler de ce projet, ça a été toujours positif. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été beaucoup
Alors,
plus
vous savez quoi, on va vous embaucher. Hein, on va vous embaucher parce que nous aussi, on aimerait ça avoir beaucoup de likes, des milliers de likes. Mesdames et messieurs, là, j'ai une petite surprise pour vous. Ce monsieur, il fait beaucoup de choses et c'est pour cette raison qu'il est à l'émission, parce que vous sortez des sentiers battus dans la façon, dans votre approche, dans le monde de l'informatique, mais vous êtes aussi un expert. Vous donnez des conseils. Écoutons.
Bonjour tout le monde, je suis David Diaz. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Je vous partage toutes les semaines des conseils et des astuces pour devenir un vrai front-end développeur. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série sur comment devenir front-end développeur. Du coup, c'est l'épisode numéro 1 de la série.
Eh oui, c'est intéressant. Hein. Bravo. Alors, les gens peuvent, être membre de votre YouTube. Vous avez un compte YouTube, je pense. Et les gens peuvent s'abonner à votre compte YouTube facilement.
Ils peuvent s'abonner très facilement. Mmh. De manière très surprenante, j'ai beaucoup de commentaires et de retours de gens, même par mail. J'ai eu une personne qui m'a contacté encore la semaine dernière pour me remercier. Sachant que cette chaîne YouTube, je l'ai commencée quand j'étais à l'île Maurice.
Vous n'avez pas chômé hein, quand vous étiez à l'île Maurice, vous n'avez pas chômé. Parce que on a des antennes à l'île Maurice, vous avez même épousé votre femme est mauricienne.
Ma femme est mauricienne.
Ouais. Donc vous n'avez pas chômé.
Non.
Et elle est avec vous? Elle est avec vous à Toronto, oui?
Oui, elle est avec moi à Toronto. C'est quelque chose... C'est un projet qu'on a mené un petit peu tous les deux, même si c'était à la base un projet qui venait de moi. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai toujours été transparent avec elle, où je lui ai dit voilà, je planifie de partir au Canada. Et elle, j'ai beaucoup de chance, a toujours été motivée et aujourd'hui elle se plaît beaucoup au Canada.
Et ça s'est bien passé, son intégration à Toronto? Elle travaille, elle...
Alors, elle travaille, son travail est à 5 minutes à pied de notre appartement, donc juste à côté. Elle, dans son cas, elle, ce qui a un petit peu été compliqué, on va dire, c'est que lorsque je suis arrivé au Canada, donc j'ai eu mon work permit à l'arrivée à l'aéroport, etc. Et on a des amis français qui avaient eu la même expérience et qui avaient eu tous deux le permis de travail à l'arrivée à l'aéroport. Donc on s'attendait à que ce soit la même chose. Mais l'île Maurice étant un pays où il n'y a pas forcément d'accord et qu'il est donc nécessaire d'avoir un visa en étant mauricien pour venir au Canada, elle a dû faire la démarche en ligne pour pouvoir avoir son permis ouvert de travail. Mmh. Et donc, ça a mis 6 semaines. Donc, ça reste quand même tout à fait correct, mais ça a mis 6 semaines. Donc, il lui a fallu 2-3 mois jusqu'à qu'elle puisse commencer à travailler. Mmh.
Parlez-nous un petit peu de ce projet rapidement en France, cette compagnie qui s'appelle Glassdoor.
Alors, c'est myjobglasses.com. Mmh. Alors oui, c'est une société parisienne qui permet de mettre en relation des professionnels et des étudiants. Mmh. Donc si un étudiant a des questions qu'il souhaite poser à un professionnel, il a la possibilité de prendre contact grâce à cette plateforme et du coup de pouvoir avoir un entretien soit en ligne, soit téléphonique ou même en personne avec des professionnels.
Mais alors voilà, si on a 85 ans comme ma tante, 89 ans, parce que j'ai vu récemment un programme sur TV5 où des personnes en Chine âgées de plus de 80 ans, ils sont en train d'apprendre à maintenant faire leurs courses sur des tablettes informatiques. Mm-hmm. À 85 ans, il y a encore de l'espoir pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas trop manier l'informatique, oui?
Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, vraiment, il n'y a pas d'âge. Je connais beaucoup de personnes qui ont 70 ou même, ou même plus et qui... Et j'irais, Internet est devenu un outil, j'irais, beaucoup de personnes, que ce soit à la retraite ou autre, se mettent à l'informatique très souvent pour même des raisons familiales.
Ah ouais. Alors, vous avez commencé très jeune, hein?
Alors, j'ai eu la chance de commencer aux alentours de 14-15 ans. À faire mon premier site Internet.
Ouais. Alors, on va vous adopter, d'accord? Alors, beaucoup de gens, j'aimerais, qui pensent pareil comme nous, mais nous, on va avoir le premier choix, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a donné cette entrée en onde mondiale.
Et je vous remercie.
Et on se reparle très prochainement. Peut-être vous allez nous donner des conseils, des astuces pour améliorer notre visibilité à travers le monde. Pourquoi pas?
Volontiers.
Allez, tout le monde vous applaudit bien fort, voilà. Et on garde le contact, cher David. Et bien le bonjour à ma compatriote mauricienne, votre femme. C'est quoi son nom?
Kajal.
Ah, très bien. Alors vous direz un bonjour de la part de toute bande du monde mauricien qui écoute nos conversations. Hein? Je parle bien encore créole, n'est-ce pas?
Ah, vous parlez très très bien. J'ai
Allez,
tout compris.
On se parle très bientôt. Au revoir.
À bientôt. Merci à tous.
De la chanson grâce à nos radios partenaires. Dans un instant, le point de l'actualité avec RFI et tout de suite après, une émission spéciale. On parle de santé mentale avec plusieurs invités à Toronto, mais aussi à travers le monde, Montréal surtout. Allez, gardez le contact.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Bill 7, to ban discrimination in employment, government services, and housing based on a person's sexual orientation was up for a vote at Queen's Park. Most NDP and Liberal MPPs supported the bill, but without some progressive conservative legislators backing, a divisive split could rack the province. Four PCs decided to break party ranks to vote with their conscience and support Bill 7. Cabinet Minister and MPP Dennis Timbrell did it to show solidarity for his beloved brother, the well-known drag queen, Rusty Ryan. And for me, a gay politician who was not yet out, I had to take a stand. We were known as the Gang of Four. I'm former Cabinet Minister and MPP Phil Gillies. The date, December 2nd, 1986, when LGBT rights came to Ontario.
Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city. Florent Guignard.
C'est la suite de RFI Midi et d'abord un point sur les dernières informations à la mi-journée avec peut-être jusqu'à 700 000 personnes dans les rues de Hong Kong aujourd'hui. C'est-à-dire à peu près un habitant sur 10 de l'ancienne colonie britannique passée dans le giron chinois, tout en conservant son propre système. C'est précisément contre un projet de loi pour permettre les extraditions judiciaires vers la Chine continentale que la population de Hong Kong est mobilisée. Mobilisation historique. Le texte de loi doit normalement être discuté à partir de mercredi au Parlement. Élection présidentielle aujourd'hui au Kazakhstan. C'est le dauphin de l'ancien dictateur Nursultan Nazarbayev qui est le favori face à 6 autres candidats peu connus du grand public. Et tout à l'heure, lors de plusieurs manifestations dans les deux principales villes du pays, des centaines de personnes ont été arrêtées par la police. Aujourd'hui au Soudan, c'est le début du mouvement de désobéissance civile lancé par l'opposition après la très violente répression du mouvement lundi qui a fait plus d'une centaine de morts à Khartoum. Des manifestants ont tenté d'ériger des barricades et les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des tirs en l'air. En Moldavie, la dissolution du Parlement et la convocation de prochaines élections législatives. La justice moldave a décidé de mettre à l'écart le chef de l'État. Le tennis à Roland-Garros, la finale du double dames vient d'être remportée par la paire Kristina Mladenovic et Timias Babos. Dans une heure et demie, ce sera le début de la finale homme, un match retour en quelque sorte entre l'Espagnol Rafael Nadal et l'Autrichien Dominic Thiem, puisque c'est la même affiche, la même finale que l'an dernier. Et l'an passé, c'est Rafael Nadal qui avait remporté le titre. Le foot et la Coupe du Monde féminine hier soir, la Norvège. Le prochain adversaire de la France a battu le Nigeria 3-0. L'Allemagne a battu la Chine 1-0. Et l'Espagne a battu l'Afrique du Sud 3-1. Aujourd'hui, trois nouvelles rencontres. Australie-Italie qui vient de commencer. Brésil-Jamaïque et Angleterre-Écosse. Enfin, je vous rappelle la défaite de l'équipe de France, les hommes, face à la Turquie 2-0 dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2020.
Spéciale.
La santé mentale, on en parle. Ensemble, faisons reculer le stigma et les tabous. La communauté haïtienne est en détresse. Deux suicides ces derniers jours qui ont bouleversé l'opinion publique et la communauté suffisent à tirer la sonnette d'alarme. En proie à la dépression, à la cyberdépendance, à l'addiction ou encore à des troubles de santé mentale, nos invités ont été très fragilisés, mettant parfois leur vie en danger. Au programme aujourd'hui, à la demande des auditeurs, entrevues, reportages, chroniques et analyses, mais aussi où trouver de l'aide, des ressources, évaluation des ressources avec nos invités. Une émission réalisée en partenariat avec magazine Priorité Santé, Caroline Paré, ARFI, Educ Nation Consulting Inc., Reflet Salvéo, Noir et Psy, c'est un cabinet de conseil et d'intervention en santé mentale. Et la santé mentale, on en parle. Ensemble, faisons reculer le stigma et les tabous. Pour nous joindre tout au long de l'émission ou émettre vos commentaires en direct, écrivez-nous uniquement sur popourri@cut.fm. Je répète, popourri@cut.fm.
Je poste un message sur Facebook où dedans je m'adresse à mes harceleurs. Je leur dis stop, c'est fini, vous avez gagné, je m'en vais. Je marche pendant quelques heures, mon téléphone ne fait que de sonner. Je raccroche, je ne veux pas répondre. Je réponds à 2-3 messages et puis après j'abandonne, je mets mes écouteurs, la musique, mais j'arrive devant ce pont. Je ne sais pas nager, il y a de l'eau, le paysage est joli, je me sens bien. Je me dis c'est ici que je veux partir. J'enjambe le pont et puis sans réfléchir, je me laisse tomber. Et là, je me sens couler, liberté totale. La musique s'arrête, plus aucun son, je me sens bien. Et quelques instants après, je sens une main qui s'agrippe à moi et qui me tire. Je veux pas, j'essaie de me débattre, je veux qu'on me laisse là, laissez-moi partir enfin. Enfin, on n'a pas le droit de retenir quelqu'un, laissez-moi. Et 10 minutes après, je me retrouve dans l'ambulance. On me met une couverture chauffante, on parle comme si j'étais plus là. J'entends un ambulancier dire son corps se réchauffe pas, il va faire un arrêt cardiaque, la fiche de décès. Et moi, je suis là, je crie, je suis là, je ne veux pas mourir, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Et à cet instant, je remercie ces policiers, je me dis, mais heureusement qu'ils étaient là à ce moment-là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne peux plus retourner au lycée, je ne peux plus rien faire parce que ça va être encore pire. Là je n'ai pas seulement raté, je fais en public, il y avait du monde.
Aujourd'hui, j'ai le cœur lourd. Après une semaine marquée par une mini-vague d'actes de mort volontaire dans la communauté haïtienne, je constate que celle-ci est malade et qu'un bon nombre de ses membres souffrent en silence. De ce fait, chers compatriotes, je me permets de déclarer que la communauté haïtienne est en détresse. Le vendredi 24 mai, en fin de soirée, quand mon téléphone s'est mis à pleurer, je savais que j'allais moi aussi verser une larme ou deux. Je savais qu'on m'appelait pour m'annoncer le départ d'une amie, d'une connaissance. Mais je ne m'attendais pas à que ce soit un départ volontaire. Et oui, vendredi dernier, le suicide a de nouveau frappé à la porte de notre communauté. Tel un colporteur, il persiste et pénètre dans notre maison. La récurrence de ces visites nous montre bien qu'ils ne discriminent pas. Qu'on soit noir, blanc, jeune, vieux ou pauvre, il sévit. Selon les statistiques, il continuera à frapper car toutes les 30 secondes, une personne s'enlève la vie quelque part dans le monde. Et il est inutile de préciser que notre belle communauté fait également partie de ce beau monde. Je me présente. Walter Innocent Jr., rédacteur du blog Selon Walter. J'écris par passion, je blogue par souci d'une meilleure compréhension du monde complexe dans lequel nous vivons. À travers mes écrits, je compte vous faire voyager dans tous les coins de la planète afin de découvrir et d'explorer les réalités sociales, culturelles, de différentes sociétés. Après tout, bloguer, c'est partager, témoigner, informer et bien sûr, apprendre. Étant haïtiano-québécois, je porterai un regard particulier sur Haïti et le Québec. Je vous invite à visiter mon blog www.selonwalter.com. Ma prochaine invitée est d'origine haïtienne. Elle vit à Montréal. Elle a été bouleversée par la disparition soudaine d'une amie à Montréal. En guise de thérapie, elle décrit son état d'âme sur Facebook. Elle dit, je cite, « Je n'ai pas la prétention d'être psychologue, psychiatre, ni travailleuse sociale, mais je souffre de la maladie bipolaire depuis de nombreuses années et j'ai de la chance et le privilège d'être soignée. » Elle s'appelle Varda Étienne. Elle est en direct avec nous à Montréal. Bonjour Varda et merci d'être des nôtres aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous de m'avoir invité.
Alors, vous avez écrit, c'était un cri du cœur sur votre page à Facebook.
Et... C'est-à-dire, si vous me permettez de préciser, lorsque vous avez dit que je faisais un témoignage pour une amie, ce n'est pas une amie, c'était plus une connaissance que j'avais rencontrée dans différents événements, mais c'est quelqu'un dont le suicide m'a profondément marquée, comme les deux autres d'ailleurs qui ont suivi, parce qu'il y a eu, à la limite, il y a eu trois suicides en trois semaines consécutives, et ce sont des gens, bon, tous issus de la communauté haïtienne, des gens dans la quarantaine, bon, il y en a un qui est dans la début cinquantaine, et ça m'a marqué, j'en ai même pas dormi, la vérité.
Et vous dites dans votre petit message sur votre page Facebook, arrêtez de jouer à l'autruche, de banaliser la maladie.
Exact. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai 46 ans, j'ai reçu mon diagnostic de bipolarité, j'avais 14 ans. Bon, mes parents sont arrivés ici, ils ont immigré au Canada, au Québec plus précisément, il y a une cinquantaine d'années. Ils font partie de la première vague d'immigrants qui sont haïtiens, qui sont venus s'installer à Montréal. Ceci étant, malgré toutes les années qui se sont écoulées, il y a encore un travail d'envergure à faire dans la communauté, c'est-à-dire d'éduquer les gens et les sensibiliser face à la maladie mentale. C'est-à-dire qu'on a dans la communauté, et je ne veux pas... généralisé, c'est-à-dire que oui, c'est dans la communauté haïtienne, mais moi, j'irais plus loin. Je pense que c'est dans la communauté noire, que ça soit la communauté antillaise ou africaine, peu importe. Il y a un problème, il y a une honte, il y a un tabou immense entourant la maladie mentale, c'est-à-dire que on ne veut pas faire face à la réalité, on va trouver toutes les excuses pour justifier des comportements qu'on qualifie de fous, hein, fous, F-O-U-S, c'est-à-dire que dès que quelqu'un a des comportements erratiques ou bien qui semblent marginalisés ou qui font pas partie de la norme, ben on est fou. Et on va mettre ça sur le dos du vaudou. Alors on va dire souvent que ce sont des gens auxquels on a lancé un mauvais sort, c'est des gens qui ont eu une mauvaise vie avant, il y a toutes sortes d'excuses. Et ce que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre plutôt, c'est que la maladie mentale à la base est un débalancement chimique au niveau du cerveau. La cause numéro un, c'est cela. Donc, par exemple, moi qui souffre du trouble bipolaire, c'est un débalancement au niveau du cerveau, c'est un manque de minerais. Donc, les antidépresseurs, la médication qui m'est donnée me permet de régulariser mes humeurs. Dès que j'arrête de la prendre, tout de suite, je vois les effets que ça fait. Et je tiens aussi à dire aussi que même moi, j'ai eu des idées suicidaires tout au long de ma vie, que j'ai pu, heureusement, arrêter grâce à un excellent psychiatre qui est d'origine haïtienne, docteur Joël Desrosiers, qui me soigne depuis 26 ans. Donc, une bonne médication et une psychothérapie, ben, c'est la clé pour aller mieux. Mais on ne guérira jamais. Ça, il faut le comprendre aussi.
Alors, il y a aussi cette peur d'être stigmatisé.
Tout à fait.
Et je pense que les gens... Des fois, dit c'est une maladie pour les blancs, hein, une maladie des blancs.
Oui, c'est vrai. Hein,
et donc, qu'est-ce qui est la cause profonde, d'après vous, de ce mal-être? Crise d'identité, manque.
Moi, je vous dirais, si vous me permettez, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est une maladie de blancs, sauf que moi, je ne connais pas de maladie qui touche une race particulière. Moi, je suis pas au courant. Je pense que les problèmes de santé mentale sont, comment dire, il y a un jugement non seulement de la communauté noire, de toute communauté confondue. Je pense que nous, étant descendants d'esclaves, c'est une façon de contrer ou de comment dirais-je, j'ai trouvé les bons mots. C'est-à-dire, c'est de montrer aux blancs que malgré tout ce qu'on a vécu comme sévices, ben cette maladie-là ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on est assez fort mentalement et physiquement pour ne pas être atteint de maladie mentale. Il y a toute la honte aussi. C'est un sentiment d'échec. C'est un sentiment on attribue souvent la maladie mentale aux faibles. On va dire que nous sommes des manipulateurs, des gens faibles d'esprit, des gens qui n'ont pas de contrôle sur soi. Il y a toutes sortes de qualificatifs péjoratifs qui sont utilisés pour nous stigmatiser, justement. Mais moi, je suis sincèrement, puisque j'ai eu mon diagnostic il y a près de 30 ans maintenant, je fais abstraction de tout ça. J'ai été capable au fil des ans j'ai énormément lu, non seulement sur la bipolarité, mais sur la maladie mentale au départ. Donc, et je fais un travail colossal. Tous les jours, je vous assure, je reçois quotidiennement entre 15 à 20 messages, de gens issus de ma communauté qui souffrent en silence et qui ne savent pas où aller chercher de l'aide, à qui demander de l'aide, et ils ont une peur bleue d'être jugés et d'être rejetés par la communauté, surtout.
Depuis le lancement de la préparation de cette émission, j'ai reçu plusieurs appels, plusieurs courriels. Oui. Vous avez parfaitement raison, les gens ne veulent pas qu'on dise leur nom, ne veulent pas aller chercher de l'aide. Ils vous écoutent en ce moment et vous dites dans votre petit mot sur Facebook, nous sommes en 2019 et vivons au Québec et non pas en Haïti. On pourrait dire la même chose en Toronto, en Ontario. Le Québec étant une société démocratique ouverte et qui souvent fait preuve de compassion, compréhension et d'empathie. S'il vous plaît, je vous prie, soyez à l'écoute, tentez de détecter les signes. Je ne le dirai jamais assez, plusieurs ressources sont offertes, que ce soit le CLSC ou l'urgence des hôpitaux. Contactez la police même s'il le faut, ça pourrait sûrement aider, peut-être, je le souhaite ardemment, éviter le pire.
Exact. Et je le pense vraiment, parce que il ne faut pas oublier quelque chose. Si vous lancez un SOS, si vous demandez de l'aide, c'est confidentiel. Il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone, d'appeler même une amie, un membre de la famille, et si vous avez peur que ces gens-là vous jugent, n'hésitez pas, faites le 911. Il y a SOS Suicide, il y a un organisme que moi j'affectionne particulièrement qui s'appelle Revivre, c'est www.revivre.org, qui m'a littéralement sauvé ma vie. Il y a des lignes d'écoute 24 heures sur 24, on va vous référer aux bons endroits, on peut même venir vous chercher, et la police est là pour ça. La police est là pour nous protéger. Donc si vous avez besoin de vous protéger de vous-même, n'hésitez pas à faire le 911, on va venir vous chercher. Moi, ça m'est arrivé. Je suis une personnalité publique. Combien de fois on m'a reconduit à l'urgence psychiatrique sans que ça ne fasse la une des journaux? Et j'ai eu énormément, j'ai reçu l'aide dont j'avais besoin. Le personnel hospitalier était gentil, à l'écoute. Donc, il faut faire un choix.
Oui. Alors, pour les gens qui nous écoutent dans la région de Toronto, qui ne vous connaissent pas tellement, parce que je ne voulais pas tellement lancer votre vue publique en ondes, parlez-nous un petit peu de vous, de ce que vous faites. D'ailleurs, vous avez un tournage juste après l'émission.
Oui, je quitte pour aller faire. Alors, je suis reporter culturel pour TVA depuis 18 ans. Mmh. J'ai débuté ma carrière à Musique Plus en 97. J'étais pendant 10 ans. Je suis aussi auteur conférencière. J'ai écrit, j'ai 5 livres à mon actif, dont le premier qui est une autobiographie qui a pour titre Maudite folle, que je suggère je vous suggère de lire parce que c'est sur la maladie mentale. Je raconte justement comment je vis avec la maladie mentale. J'ai aussi lancé une ligne de cosmétiques. Bon, au niveau boulot, ça fonctionne, mais le problème n'est pas là. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'aller bien dans ma tête pour mes enfants, pour avoir continué à être indépendante, pour avoir une carrière, pour mon entourage, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille. J'ai besoin d'aller bien dans ma tête, d'abord et avant tout. Le reste, c'est secondaire. Alors, la santé mentale est aussi importante que la santé physique parce que c'est démontré avec les statistiques qu'en 2020, les problèmes de santé mentale vont être la cause numéro un du taux d'absentéisme au travail. C'est pas peu dire. Donc, si on veut qu'une société fonctionne, elle doit être bien mentalement.
Oui. Et vous avez quand même des employeurs qui vous soutiennent, qui vous aident à progresser dans votre vie. Ça, c'est très important pour les employeurs qui nous écoutent.
Mes employés aussi. Mes employés aussi, parce que comme je suis une femme d'affaires, j'ai une compagnie de cosmétiques. Moi, tout le monde est au courant. Et en parlant d'employeurs, je leur ai dit, écoutez, vous savez, j'ai une condition mentale, genre, tout le Québec le sait. C'est un, alors, si vous, je suis capable de faire mon boulot, je suis professionnelle, je suis, et la preuve en est bien grande, je suis quand même à TVA, qui est genre, la station numéro un au Québec, qui m'emploie depuis une vingtaine d'années. J'ai des employeurs qui comprennent et qui me disent, quand ça va pas, laisse-nous savoir. Et quand je ne vais pas bien, ben je leur dis, écoutez, je ne pourrais pas être présente parce que je n'ai pas toutes mes capacités en ce moment.
Écoutez,
ils le comprennent.
Varda Etienne, vous venez de toucher, je pense, les cœurs de beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent.
Merci
pas
beaucoup.
Seulement à Toronto ou à Montréal, mais sur l'Internet, partout où on retransmet notre émission sur le net, comme vous le savez. Vous venez de... Je ne sais pas moi, pointer du doigt de certains aspects les plus importants. Il faut aller chercher de l'aide, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Et je pense qu'il faut avoir un ami. Moi, j'ai perdu 4 personnes au moins dans mon entourage, des amis très, très, très proches, y compris un policier à Montréal. Il venait de prendre sa retraite et puis il s'est suicidé. Ça, c'est toujours un mystère. C'était toujours un mystère, on ne comprend pas.
Et ça fait mal, ça
pourquoi.
Fait mal parce qu'on se sent impuissant, parce
voilà.
qu'on dit, mais si j'avais su, ouais, voilà.
Voilà, voilà. Alors donc, et puis un autre ami jeune à 20 ans, 25 ans, quand il a découvert son homosexualité, ses parents ne voulaient pas entendre, il s'est suicidé en public pour lancer un message, sans doute, au monde. Enfin, j'ai plein de cas comme ça, mais il y a des gens qui nous écoutent et nous avons heureusement des psychologues, des experts tout au long de cette
des
émission.
Des psychiatres.
Voilà, qui vont nous parler tout à l'heure. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous remercie du fond du cœur, Varda, Etienne.
C'est moi qui vous remercie.
Et on garde le contact. Je dis bien
avec
bonjour
grand plaisir
à vos amis à Toronto qui vous écoutent, Jeannine Maillard, entre autres. Qui est
ah oui, que j'aime beaucoup, qui est une amie de longue date, oui, effectivement.
À bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
CIUT 89.5 Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Est-ce que certaines personnes sont davantage exposées au risque de dépression ?
Alors oui et non. Oui, parce qu'on connaît des facteurs de risque effectivement un peu plus importants chez des personnes, par exemple, plus sensibles au stress, plus sensibles aux événements qui peuvent survenir, souvent pour des raisons un peu de personnalité, de leur construction de personnalité. Mais en même temps, la dépression peut toucher quand même tout le monde potentiellement. Donc je ne pense pas qu'il faille faire des catégories.
Est-ce qu'aujourd'hui la dépression se soigne bien ?
Alors on peut dire qu'on soigne bien de nombreuses dépressions, la majorité. C'est-à-dire à la fois on peut soulager rapidement un certain nombre de symptômes et on peut surtout faire en sorte qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils se stabilisent bien dans le temps. Alors c'est vrai pour la majorité des cas, avec des méthodes assez diversifiées. On a les médicaments, on a les psychothérapies, on a des méthodes globales. Même si effectivement il reste des cas un petit peu difficiles sur lesquels on continue à travailler pour améliorer les prises en charge. Mais le message, c'est vraiment qu'on a des traitements utiles et donc qu'il est tout à fait justifié et important de se faire aider quand on pense qu'on en a besoin.
Et qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui ont peur de prendre des médicaments ?
Alors c'est normal déjà d'avoir une appréhension parce que ce n'est pas quelque chose de naturel et surtout pour des personnes jeunes, la dépression touche aussi des personnes jeunes donc qui ne sont pas habituées au traitement, en tout cas au traitement prolongé. Je crois que le meilleur conseil qu'on peut donner c'est d'en parler à son médecin, de peser le pour et le contre. Il n'y a rien d'obligatoire en général et la décision se fera ensemble.
Professeur Antoine Pellissolo, merci. Je rappelle que vous êtes chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et tout à l'heure, dans Priorité Santé, nous allons parler du stress au travail, burn-out, harcèlement moral.
Eh oui, nous venons d'entendre un professeur avec Caroline Paré du magazine Priorité Santé. Merci beaucoup, Caroline. La dépression est un trouble mental courant et constitue la première cause d'incapacité dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 millions de personnes sont confrontées à ce problème et dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide. Cette émission, mesdames, messieurs, n'est pas destinée à remplacer les consultations personnalisées pour la prévention du suicide. Si quelqu'un que vous connaissez risque de commettre un suicide ou si vous pensez à vous donner la mort, communiquez immédiatement avec les services d'urgence locaux pour obtenir des conseils professionnels. Votre annuaire téléphonique local renferme les numéros de téléphone des lignes d'écoute téléphonique et des agences de soutien. Je vous rappelle qu'en moyenne, environ 3900 Canadiens mettent fin à leur jour chaque année. Ce chiffre dépasse souvent le nombre de décès causés par des accidents de la route ou une année donnée. Mais bien que des tentatives de suicide soient plus fréquentes chez les femmes, environ 4 fois plus d'hommes se suicident réellement. Ce résultat s'explique par le fait que les hommes font généralement appel à des moyens beaucoup plus radicaux dans leur tentative de suicide. Armes à feu, pendaison, asphyxie. Les femmes optent souvent pour la surdose de médicaments, l'asphyxie ou l'ouverture des veines. Les armes à feu sont utilisées dans 30% de cas de suicide. On estime qu'environ 80% des décès par arme à feu sont des suicides. Une émission en partenariat avec Reflet Salvéo. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seul. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
CIUT 89.5, Toronto.
Le 21 juin.
Et nous, nous célébrerons la fête de la musique dimanche prochain, le 16 juin de 11h à 13h. Soyez des nôtres, on fait le tour du monde en musique.
De la musique.
Et oui, maintenant les paroles d'experts. Qu'est-ce que la maladie mentale? Bruno Falissard est pédopsychiatre, donne son point de vue sur la différence entre maladie mentale et maladie mentale, oui. Et si le premier est celui qui a recours à un professionnel pour faire face à la souffrance, la seconde est une construction intellectuelle des médecins destinée à les aider à communiquer entre eux. Et encore une fois, c'est une collaboration avec Radio France Internationale.
Et même les adultes se demandent régulièrement, mais alors est-ce que j'ai une maladie mentale? Si ça se trouve, je ne suis pas normal. Si ça se trouve, je suis un malade, je suis un fou. Et d'abord, qu'est-ce qui différencie un fou de quelqu'un de normal, etc. En termes médicaux, c'est vraiment très simple. D'abord, il faut définir ce que c'est qu'un malade psychiatrique avant de définir une maladie psychiatrique. Et parce que les deux ne sont pas tout à fait à mettre en parallèle. Le malade psychiatrique, c'est celui qui se lève un matin et puis qui se dit « mais ça va pas, ça va pas, j'arrive pas à faire, à vivre ma vie, j'ai peur des autres, je suis triste, ou alors j'arrive plus à, je me sens agressé par des choses, je me sens pas bien, et ce pas bien, il a à voir avec ce qui se passe dans ma tête ». Alors ça arrive à tout le monde. Et puis, il y a quelques personnes à qui ça arrive tellement fort qu'ils ont besoin de demander de l'aide à un professionnel. Et ça, c'est la définition d'un malade psychiatrique. C'est quelqu'un qui ressent le besoin de demander de l'aide à un professionnel, et ça a à voir avec ce qui se passe dans sa tête. Donc, la malade, c'est vraiment lié à la plainte. Après, il y a la maladie. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est une construction. C'est-à-dire que les médecins qui, eux, sont dans leur cabinet, reçoivent des patients régulièrement qui viennent les voir parce qu'ils ne vont pas bien. Et ils s'occupent de ces patients. Et puis, au fur et à mesure des décennies, voire des siècles, ces médecins se sont rendus compte qu'il y avait des patients qui se ressemblaient. Et ils se sont dit, tiens, eh ben, je vais mettre un nom sur ce groupe de patients qui se ressemblent. Alors, je vais dire, il y a des mélancoliques, il y a des hystériques. On parlait de ça chez les Grecs. Et puis, donc, les noms sont restés. Ils se sont un peu modifiés au fur et à mesure que les médecins disaient « Oh ben non, ce groupe de patients, non, moi je préfère le séparer. » Et puis les gens disaient « Ah ben il a raison. » Alors aujourd'hui, on a des mots « dépression, anxiété, schizophrénie, autisme, trouble obsessionnel compulsif. » Et puis je vous promets que dans 20 ans, ça ne sera pas les mêmes mots. Et il y a 20 ans, ce n'était pas les mêmes mots. Donc vraiment, la maladie, c'est une construction, et en général, c'est une construction des médecins. Ça leur permet d'échanger entre eux, ça leur permet d'écrire des livres sur ce qu'ils voient et de le communiquer à la société. Mais ça n'a pas une réalité en tant que telle. C'est le malade qui a une réalité.
Émission spéciale, la santé mentale, on en parle. Ensemble, faisons reculer le stigma et les tabous. Et oui, ma prochaine invitée a une maîtrise en psychologie et une autre en gestion des ressources humaines, ainsi qu'un certificat universitaire en santé mentale en contexte social. Après ses études, elle a travaillé 5 ans comme coordonnatrice de projet de santé et de santé mentale et 4 ans comme chef de projet en ressources humaines. Après des études, elle continue ses réflexions et publie « Mère célibataire africaine », un guide pour la mère célibataire en quête d'astuces et de solutions, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Elle a également rédigé 2 travaux de recherche sur le vécu de l'âge mûr chez les personnes âgées d'origine immigrée et sur l'accueil dans les services de santé mentale en Belgique. Celle qui a étudié la psychologie et la gestion des ressources humaines a trouvé au fil des années un passe-temps qui rassemble tous ses intérêts. La création, la gestion d'un blog en santé mentale, un espace où elle vise à démystifier la psychologie auprès du public africain et de sensibiliser aux maladies courantes et tabous dans ces communautés. En plus de son engagement bénévole auprès de plusieurs organismes non gouvernementaux, elle gère 2 pages Facebook dédiées à l'interaction avec le public qui porte sur le soutien et le développement personnel des mères célibataires et africaines. Et je vous rappelle pour vos questions, commentaires, tout au long de cet entretien, une seule adresse, popourri@cut.fm. Et oui, accueillons la psychologue, ancienne agente de planification à Reflet-Salvéo, fondatrice de noiretpsy.org, que je vous invite à aller visiter. Elle est promotrice de la santé mentale dans les communautés immigrantes. Elle est coach, facilitatrice de webinaires et ateliers. Elle est auteure et elle alimente ses blogs et procure des conseils pertinents aux hommes, aux femmes en pleine détresse. Et oui, nous avons le plaisir pour la première fois, madame, monsieur, d'accueillir la psychologue Yann Vivette. Bonjour, est-ce que vous êtes bien là avec nous?
Oui, je suis là, bonjour, bonjour, merci.
Alors, vous voyez, c'est une émission un peu mouvementée aujourd'hui, on n'est pas habitué. Je sais, il fait beau à l'extérieur, les gens veulent sortir, avoir du bon temps, mais en même temps, des fois, la déprime, ça arrive, et ça ne choisit pas de date, d'heure ou de saison. Et dans votre cabinet où vous travaillez, d'ailleurs, je pense que vous êtes aussi au centre francophone, hein, n'est-ce pas?
Oui, je travaille comme thérapeute au centre francophone et comme consultante en santé mentale autonome.
Oui. Alors, quels sont les signes avant-coureurs que vous entendez de la part de vos patients ou des gens qui vous rendent visite?
Il faut déjà savoir que 100% de mes patients sont des immigrants francophones. Et 80% environ sont issus de la communauté noire. Donc, la plupart des signes que je rencontre chez eux sont liés à ce qu'on pourrait appeler le choc culturel. Donc, il y a des difficultés d'adaptation au niveau de la langue, la déqualification professionnelle. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont immigré au Canada, mais qui n'ont pas eu des diplômes reconnus par le système canadien. Alors, ils se retrouvent à faire des petits boulots. Et ça, ça crée parfois des problèmes de dépression. Il y a également des comportements suicidaires, des troubles de santé mentale comme la psychose maniaco-dépressive, la schizophrénie, par exemple. Il y a le harcèlement moral au travail, la discrimination, le racisme à l'école. Et je reçois aussi beaucoup d'enseignants qui ont du mal avec les relations avec les enfants. Il faut savoir que quand on est issu de la communauté africaine et qu'on arrive au Canada et qu'on devient enseignant, le rapport entre les adultes est très différent. Donc, il y en a beaucoup qui ont du mal à s'adapter à ce mode relationnel et ça crée chez eux un problème identitaire qui provoque également de la dépression.
Et justement, vous avez peut-être entendu notre première invitée en direct de Montréal, Varda, tout à l'heure. Elle est chanceuse parce que son employeur, oui, ses employés, ses amis l'acceptent et oui, elle peut garder son travail. Ce n'est pas le cas pour 90% de cas, malheureusement.
Oui, ça c'est vrai. Et j'avais même quelque chose que je voulais dire par rapport à son intervention. Elle a dit arrêtez de jouer à l'autruche et de banaliser les troubles de santé mentale. Et je trouve que c'est très bien ce qu'elle dit. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que les préjugés et les mythes qu'on retrouve dans les communautés noires par rapport à la santé mentale sont liés aux croyances culturelles. Donc déjà, dans la majorité de ces pays-là, le psychologue, le psychiatre, le travailleur social, ils ne sont pas les professionnels de référence pour la santé mentale. Donc, quand les populations immigrent, ils immigrent également avec leur système de référence en ce qui concerne la santé mentale et la guérison. Ils se disent, bon, moi, dans mon pays, quand je ne vais pas bien, j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai ma communauté. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au Canada, il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'immigration, qui vont les rendre plus vulnérables que s'ils étaient dans leur pays d'origine. Donc, je pense qu'il faut aussi sensibiliser ces personnes-là, pas critiquer leur jugement, mais comprendre que s'ils ont ce jugement, c'est parce que quelque part, leur grille de lecture n'est pas la même. Ce n'est pas tout le monde qui est informé sur la santé mentale. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le vocabulaire qui est utilisé dans le DSM, qui est le manuel statistique et diagnostique des troubles de santé mentale. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est. Donc, quand on n'est pas habitué à vivre avec des personnes qui ont des troubles de santé mentale, comme la dépression, alors c'est un peu compréhensible qu'on s'en méfie et qu'on se dise, ces troubles-là, je ne les connais pas.
Donc, il y a un auditeur qui nous écrit, qui nous dit « Moi, ça fait longtemps que je dis à mon employeur que ça ne va pas, l'ambiance est empoisonnée et j'ai des troubles, j'arrive pas à dormir, je suis toujours nerveux. Et est-ce qu'il y a moyen de poursuivre mon employeur en justice parce qu'il n'a rien fait? Et je ne suis pas le seul à être dans cette situation. Si je suis malade aujourd'hui, que j'ai des troubles, j'arrive pas, je commence à développer des troubles de dépression, est-ce que j'ai le droit de poursuivre mon employeur?
Je ne suis pas vraiment juriste, donc je ne pourrais pas vraiment répondre à la question. Mais les cas que moi j'ai connus d'employés qui venaient me voir, ils avaient informé leur employeur qu'ils n'étaient pas bien. Donc, ils disaient, voilà, je ne vais pas bien, j'ai une dépression. Et les employeurs leur ont dit, allez consulter. Et je sais aussi qu'au Canada, il y a des programmes d'aide aux employés qui existent. Mais peut-être que ça n'existe pas dans toutes les boîtes. Donc, il faut voir ce que l'employeur a mis en place pour aider ses employés. Et si ce n'est pas le cas, je conseille toujours aux personnes de faire la démarche eux-mêmes, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qui va faire une note pour l'employeur. Des notes comme ça, j'en fais tout le temps. Mmh. C'est une note de suivi qui dit, voilà, tel monsieur était chez moi pour tel problème, voilà ce qui a été diagnostiqué, voilà ce qui est mis en place.
Anastania nous écrit, le problème qui se pose, c'est qu'on parle beaucoup, mais on écoute peu.
Oui. Oui, il a touché un point très sensible qui est l'écoute active. Mmh. L'écoute active, c'est quoi? C'est quand quelqu'un se confie à nous, de ne pas réagir par rapport à ce qui est suscité chez nous, mais de l'écouter. Et ça, c'est très difficile parce que les gens, ils ont leur propre représentation de la santé mentale. Quand on se confie à eux directement, ils nous disent ce qu'ils en pensent. Ils ne prennent pas le temps de se taire et d'écouter. Et l'écoute active, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas évident d'écouter de manière active une personne qui a un problème de santé mentale. Il faut vraiment être formé à ça. Ou alors, il faut avoir eu l'occasion d'écouter plusieurs personnes dans la situation pour comprendre qu'il faut faire attention.
Moi, je dis toujours que si on est intime avec un ami, une amie dans son entourage, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas membre de la famille. Hein. Et,
oui.
Et c'est que des fois, dans des confidences, il faut se confier vraiment parce que cette personne pourrait être l'intermédiaire pour nous sauver la vie, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, par exemple, d'aller voir un psychologue, un médecin, à l'hôpital, rentrer à l'urgence, mais au moins, confiez-vous à quelqu'un que vous aimez, qui est proche de vous, à qui vous pouvez faire confiance. Et ça peut vous sauver la vie, n'est-ce pas? Au moins, c'est un départ, c'est un début.
Oui, ça, je suis absolument d'accord. C'est ce qu'on appelle les ressources. Mmh. Mais il faudrait vraiment que cette personne soit aussi ouverte par rapport à la santé mentale. Suicidaire. Et se confie à un de ses proches ou à un ami qui considère le suicide comme un acte pas honorable du tout, il risque de le critiquer.
Mais il y a une autre personne qui nous écrit, notre communauté n'est pas à l'abri de ce geste, les balles, les événements ne sont que des échappatoires. Donc, il faut vraiment passer à l'action.
Oui, et je parlais tantôt de ce qu'on appelle les facteurs de risque. Parce que la plupart des immigrés ne savent pas qu'une fois qu'ils ont immigré, ils sont soumis à des pressions, ils sont soumis à des conditions. Mmh. C'est leur vulnérabilité. Et tant qu'ils ne sont pas conscients de ça et qu'ils ne sont pas éduqués d'un côté sur la santé mentale, sur les maladies mentales, ils ne pourront pas reconnaître chez eux et chez leurs proches les signes, en fait. Et quand on ne sait pas reconnaître le signe d'une maladie mentale, on ne va pas aller demander de l'aide. Donc, il y a vraiment un problème de sensibilisation et d'éducation à ce niveau à faire.
Alors, les immigrants qui arrivent ici, les réfugiés, souvent, ils ont des pires problèmes possibles et ils n'arrivent pas où se tourner, se donner la tête. Et si, en plus, on ne parle pas l'anglais, là, je parle pour les gens dans la région de Toronto ou en Ontario, oui. C'est très compliqué. Quelqu'un nous dit, alors que la cause du suicide soit inconnue, il existe certains facteurs de risque fréquents dans certains groupes, en l'occurrence les immigrants et les personnes gays, lesbiennes. On n'a qu'à voir cet acte homophobe dans un métro de Londres cette semaine. Si on est noir, réfugié, nouveaux immigrants, et on n'a pas de travail, et en plus, on a une orientation sexuelle qui n'est pas acceptée dans notre communauté, par nos proches, notre famille d'accueil, ça peut être très compliqué, hein.
Ça, c'est vrai. Mais aussi, il y a des personnes qui sont informées sur la santé mentale, mais qui ne demandent pas quand même de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être compris par les personnes qui ne partagent pas les mêmes références culturelles.
Voilà.
Également, ils auront peur du diagnostic. Ils auront peur des médicaments. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais madame, je ne veux pas prendre de médicaments. Je ne veux absolument pas. Je veux juste la thérapie. Donc, même quand on est informé sur la santé mentale, il existe encore un frein. Parce qu'on ne sait pas ce que fait un psychologue, on ne sait pas ce que fait un psychiatre. On se dit qu'on va aller chez lui, il va nous donner des médicaments et qu'on deviendra l'ombre de nous-mêmes.
Alors, vous animez des webinaires aussi. Parlez-nous un peu de votre travail que vous faites avec le CAMH.
Oui. J'anime des webinaires depuis le mois de mars, je pense. Donc, j'ai une entente de collaboration pour faire justement de la sensibilisation au sein des communautés immigrantes. Et mon premier webinaire était sur la santé mentale des mères seules immigrantes au Canada. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et comme vous l'avez dit tantôt, j'ai même écrit un livre d'autothérapie et de psychoéducation parce que les femmes immigrantes ne consultent pas.
Oui.
Alors, je me suis dit, si elles ne vont pas consulter, peut-être ce serait intéressant de mettre à leur disposition un outil qu'elles pourront acheter et lire tranquillement chez elles et qui pourra les aider, en fait, à autogérer leur santé mentale.
Alors, et à bénéficier. Oui, et pour terminer rapidement, je vais vous donner toutes les adresses. D'ailleurs, les gens peuvent aller sur notre site. Il y a tous les liens possibles de votre beau travail, de votre blog, votre site web.
Oui.
Allez sur www.popourichaud.com et là, vous allez découvrir dans l'émission d'aujourd'hui notre invité, Yann-Yvette Soboni, c'est ça?
Oui, c'est
et
ça.
Donc,
c'est ça.
Et noirepsy.org, mais aussi la confidentialité, ça c'est la question qui revient toujours dans la communauté francophone et surtout issue de l'immigration. Les gens ont peur d'aller chez vous, au centre francophone ou ailleurs, et de se trouver face à face avec quelqu'un qu'on connaît et qui risque d'aller semer, propager des rumeurs dans la communauté.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Et c'est parce que les gens ne sont pas au courant que nous sommes liés par la confidentialité. Donc, ils peuvent dénoncer un professionnel qui a divulgué les informations confidentielles. Donc, ce serait intéressant d'éduquer aussi la communauté par rapport à ça pour les rassurer. Et si jamais ils ont des preuves que quelqu'un a vraiment divulgué des informations confidentielles, ils peuvent porter plainte.
Oui. Et d'ailleurs, les gens peuvent faire affaire avec vous.
On n'a pas le droit de divulguer les informations.
Ça, il faut toujours se rappeler que tous les professionnels dans le milieu de la santé doivent garder la confidentialité de leurs patients. Ils n'ont pas le droit d'aller divulguer les noms et raconter toutes sortes d'histoires sur leurs patients. Et d'ailleurs, je pense dans la majorité des cas, tout se passe très bien. Mais les gens ont toujours peur que ça se produise. Écoutez, c'est tellement important de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'espère que les gens reçoivent des informations. Enfin, ce n'est que le début, hein.
Oui.
Mais ce problème qui s'est passé à Montréal avec 3 cas, 4 cas de suicide, ça quand même a secoué pas mal la communauté en général. C'est pas nécessaire d'être haïtien, d'être africain, ça peut tomber
tout
sur
monde.
N'importe... Exactement. Donc on ne veut pas pointer du doigt sur une communauté, dans l'ensemble de la communauté, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit professionnel, qu'on soit... Tout le monde peut être affecté dans un moment... Un événement peut arriver hein, dans notre vie qui déclenche ce problème. Alors donc, je vous remercie infiniment. On vous appelle quoi? Docteur? Psychologue?
Oh, non. Juste Yann. Si je pouvais juste dire une phrase pour terminer, si vous permettez, c'est que c'est vraiment important de travailler avec les médecins de famille, pour sensibiliser à la santé mentale. Parce qu'ils sont en fait des intervenants de première ligne avec tout le monde.
Oui.
Tout le monde va chez le médecin. Donc, si on travaille avec le médecin pour intégrer la santé et la santé mentale, je pense qu'il y aura un effet beaucoup plus grand.
Yann-Yvette Soboni, on va se reparler très prochainement. Et merci mille fois de tout le travail que vous faites pour la communauté.
Merci
Nous sommes
vous.
Très fiers de vous.
Merci beaucoup et au revoir.
Au revoir. Et oui, une émission spéciale aujourd'hui, madame, monsieur, dans le cadre de ces événements malheureux qui se sont produits à Montréal, surtout dans la communauté haïtienne. Mais nous ne pensons pas seulement aux Haïtiens, on pense à tous ceux et celles qui ont perdu des êtres chers, des amis, dans leur entourage. C'est une émission un peu en hommage à tous ceux et celles qui sont là, qui vivent des moments difficiles. Nous sommes de tout cœur avec vous. Certains pensent que si une personne parle de suicide, elle ne passera jamais à l'acte. Parler de suicide est bien au contraire un signal d'alarme qui signifie qu'une personne est en danger. Si une personne est si dépassée par ses problèmes et qu'elle envisage le suicide comme une solution possible, elle mérite d'être prise au sérieux. Comment aider? Quelles sont les mesures de prévention? Et là, nous allons faire rapidement, un peu une synthèse, un bilan de tout ce qui s'est passé dans cette heure avec un invité un peu spécial qui est aussi partenaire de notre émission. Et oui, nous avons le plaisir d'accueillir le fondateur de Educ Nation Consulting Inc., Bertrand Defoe. Bonjour.
Est-ce que...
Il est là. Alors malheureusement, la ligne est pas... ne fonctionne pas, mais j'espère qu'on va pouvoir le mettre en ligne immédiatement. Et je veux, mesdames et messieurs, remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette émission. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il répond? Non? On n'a que quelques petites minutes pour avoir son opinion sur les propos. Alors, raccrochez, monsieur, on est en train de vous appeler ou encore, rappelez-nous, vous avez notre numéro. C'est le 86-9-4-6-7-000. Alors, on est en train de vous appeler là. Alors, raccrochez, monsieur, cher ami Bertrand, raccrochez, on vous appelle parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Alors, je remercie beaucoup Varda Étienne, femme de télévision. Elle est entrepreneur dans la région de Montréal. Et Bruno Falissard, pédopsychiatre, en France. Docteur Antoine Pellissolo, professeur de psychiatrie et chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en France. Et il est auteur de « Dépression, s'enfermer ou s'en sortir ». Encore une fois, je rappelle à monsieur Ndefo de raccrocher parce qu'on est en train de vous appeler. Alors, si ça ne répond pas, on ne pourra pas faire le point. Et bien sûr, notre dernière invitée, c'était la psychologue Yann Vivette Psoboni. Psychologue, elle est ici dans la région de Toronto, mais elle travaille aussi au Centre francophone de Toronto. Alors, on n'a que quelques secondes, malheureusement. Bonjour Bertrand.
Bonjour Eric.
Oui, malheureusement, on a eu beaucoup de problèmes pour vous rejoindre. Alors, vous êtes enseignant, agréé de l'Ontario, fondateur et directeur de Educ Nation Consulting. Vous avez 2 secondes pour faire le point, la synthèse. Je ne sais pas si vous avez pu entendre un peu les propos de nos invités aujourd'hui, des témoignages. Quels sont vos commentaires, votre point de vue?
Oui, j'ai suivi plusieurs des témoignages. Ce que je voudrais dire, c'est que la santé mentale est une problématique extrêmement importante. Elle touche davantage les enfants et les adolescents. Il est donc crucial, n'est-ce pas, qu'on s'y attarde, qu'on s'y intéresse très, très, très tôt. Il est également extrêmement important que les familles travaillent en relation, en collaboration avec les écoles et avec les institutions éducatives. Et finalement, je dirais rapidement que il est important qu'on sorte de la stigmatisation auxquelles font face malheureusement les personnes atteintes de troubles ou de maladies mentales. Je voudrais féliciter Madame Étienne qui a le courage de parler de sa situation personnelle.
Alors, il y a tellement de questions là-dessus. Par exemple, quelles sont les ressources en santé mentale dans les écoles? Ça serait bien un jour d'avoir quelqu'un de nos conseils scolaires de la région de Toronto venir partager un petit peu les ressources qui existent. L'école est-elle un milieu où aura une sécurité et bien-être? On a bien vu, la psychologue nous a dit qu'elle reçoit des enseignants qui souffrent des problèmes de santé mentale liés à la santé mentale. Et comment briser les tabous chez les personnes issues de l'immigration. Ce n'est pas par une émission d'une heure qu'on va tout régler, mais il faut en parler régulièrement pour enlever le tabou et prendre conscience que c'est une maladie qui doit être discutée ouvertement, sans tabou, dans nos communautés respectives, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas s'il m'entend. Vous êtes toujours là?
Je suis toujours là, Eric, excusez-moi.
Oui.
Quelques problèmes techniques, en effet, aujourd'hui. Effectivement, comme disait la psychologue Yann Biv, il n'y a pas que les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes étudiants qui sont plus atteints de troubles ou de problèmes de santé mentale. Le personnel des institutions éducatives aussi, potentiellement, peuvent en souffrir.
Mais...
Oui, il y a des ressources dans les conseils scolaires, il y a des psychologues auxquels on peut parler, c'est en général, en principe, confidentiel. Mais
oui, alors on a beaucoup de difficultés. Alors malheureusement, Bertrand, un défaut, cela ne fonctionne pas, on doit laisser l'antenne. Je remercie DJ Levera et aussi Radio France Internationale, Reflet Salvéo et tous ceux et celles qui ont réagi tout au long de cette émission. Je vous remercie, je vous retrouve pour une émission spéciale la semaine prochaine dans le cadre de la fête de la musique. Allez, venez faire de la musique avec nous. Nous irons sur les 5 continents avec des musiciens, avec des chanteurs, avec des poètes de la musique, entre autres à Montréal, et plusieurs autres groupes très très connus à travers la planète. Et je remercie beaucoup le Festival Compazouk de l'Ontario et Janine Maillard pour sa participation, mais aussi parrainer cet événement. Allez, je vous souhaite bon dimanche et surtout bonne semaine.
Pouvoir danser, c'est le plus grand signe de liberté. Pouvoir chanter, c'est le pouvoir même de la liberté. Moutou. On a quitté nos pays en grand nombre, laissant derrière nous ces tunnels sombres. La fin justifie les moyens. On prend la mer, déterminé à échapper à la misère. Même si on fait les derniers mètres à la nage, notre but c'est d'atteindre l'autre rivage. Qu'importe les orages, chers dirigeants, qu'à nos yeux croisent l'Occident. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tais-moi de loin. Oh, fuyant des politiciens et des groupes armés, on est venu en traversant la Méditerranée. Certains s'éloignent sans laisser aucun indice, car surchargés sur une pirogue des moins délices. Seuls les champs pour tous ceux qui cherchent la liberté, pour ceux qui laissent tout derrière eux pour une vie meilleure, pour ceux qui traversent un long tunnel pour voir le soleil, pour ceux qui tiennent les coups malgré les manques de sommeil. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. On saute la liberté, on crie la liberté, on danse la liberté, c'est la liberté. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin. Oh, laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Je viens de loin, tellement de loin. Oh, c'est l'une des immigrés, c'est l'une des expatriés, c'est l'une des arrivistes qui ne cherche qu'à chanter. C'est l'une des immigrés, c'est l'une des expatriés, c'est l'une des arrivistes qui ne cherche qu'à danser. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Je viens de loin, je viens de loin.
pas de loin. Oh, laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi goûter ma liberté. Moi je viens de loin, je viens de loin, tellement de loin.